Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Sophia de Radio Larzac
et Nine de RTR.
Aujourd'hui, on vous propose Parents en mode d'emploi à la maison d'arrêt de Rodez avec Radio Larzac et Radio Temps Rodez. C'est un sujet qui a été préparé ensemble depuis plusieurs semaines par les personnes détenues, les enseignants et enseignantes de l'éducation nationale détachées à l'unité locale d'enseignement, intervenantes et intervenants du service pénitentiaire d'insertion et de probation et animatrices radio.
Cours sur la parentalité dans l'histoire, sur le cadre légal, découverte des techniques radiophoniques et surtout volonté des personnes détenues de partager leur avis et leurs expériences, tout cela a permis le débat que vous découvrez aujourd'hui.
Lors de ce débat, les participants vont échanger d'abord sur les droits et devoirs des enfants et des parents, vus pendant leurs cours. Ils vont réagir et échanger sur des notions qui les ont particulièrement touchés, non sans citer des personnes influentes sur la question des droits des enfants.
Dans un second temps, les participants vont s'intéresser plus particulièrement à l'exercice de la parentalité en détention, aux moyens mis en place pour permettre cet exercice, aux limites de ces moyens et à leur accessibilité réelle. Ils vont proposer ensuite des pistes d'évolution pour un meilleur exercice de la parentalité en détention.
Parents, mode d'emploi.
On vous propose donc de commencer sans plus tarder avec une introduction sur les droits des enfants et des parents. En 1989, l'Assemblée générale des Nations unies ratifie donc un texte, la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un texte qui compte 54 articles signés par 197 États. Ce texte est bien sûr un symbole, mais il engage aussi les États signataires à faire respecter les droits énoncés dans la Convention. Quels sont les principaux droits d'un enfant selon la Convention de 1989 ?
L'état civil pour l'enfant, son nom, son prénom, son identité.
Le droit à l'identité pour l'enfant.
Le droit sur le travail des enfants.
Est-ce qu'un enfant a le droit de travailler ?
Non. Je crois que c'est 14 ans, 16 ans, ils n'ont pas le droit et l'obligation d'aller à l'école, de s'instruire. Disons qu'ils ont les mêmes droits que les adultes, adaptés au fait qu'ils sont plus des petits, quoi.
Les enfants auront les mêmes droits que les adultes et ils seront des citoyens à part entière. Ça, c'est un extrait du roi Matthias Ier de Janusz Korczak. Parmi les droits des enfants, certains donc vous ont touché, comme le droit à la citoyenneté. Pourquoi ce droit vous a particulièrement intéressé et qu'est-ce qu'il peut permettre ou au contraire empêcher ?
Oui, moi ça m'a choqué que certains enfants n'aient pas d'identité enregistrée à la préfecture, comme des enfants fantômes. On a droit au moins à l'identité.
Il y avait eu en atelier aussi l'évocation de les enfants décidaient de la politique, si les enfants faisaient de la politique, ça pourrait amener quelque chose, ça pourrait amener quoi ?
Moi, pour moi, c'est important d'écouter la nouvelle génération parce que c'est eux l'avenir et les plus bonnes idées, elles sont chez les enfants. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants.
Ils ont un regard beaucoup plus franc, beaucoup plus innocent, beaucoup plus cru aussi sur les événements qu'on peut voir aux journaux ou qui peuvent, hélas, des fois entendus par les parents. Donc, ce qui peut aussi déformer leur vision de la réalité, c'est ça aussi pour vraiment faire attention à ça. Mais il n'empêche que oui, on a beaucoup à gagner à écouter l'enfant avec ses mots à lui, interpréter et se pencher un peu sur l'application de ce qu'il pourrait nous soumettre.
Je crois que c'était Korczak qui avait proposé l'institution d'un parlement des enfants. Mm-hmm. Ça aussi, ça vous avait surpris, en tout cas, je pense, quand vous l'avez vu en cours.
Non, parce que c'est vieux, ça, quand même. À la base, ça fait longtemps ça devrait même plus choquer les gens, normalement. Au sein de l'Élysée, il y avait déjà eu ce projet du gouvernement des enfants, au niveau européen aussi. Mais bon, l'application, elle n'a pas de réel sens, quoi.
Il y avait les réunions débat aussi, créées en 63, conseil de classe.
Oui, dans les conseils disciplinaires scolaires, l'élève délégué, il avait son mot à dire lorsqu'on... exclusion ou mise à pied, mais ça pesait pas de bézef quand même, son opinion, quoi. Ça restait quand même principalement le même schéma, professeur, direct et institution de l'école, quoi, point barre, quoi. Mmh. Il était plutôt là pour faire le rapporteur le lendemain, en cours, t'es viré.
Il y avait également le système d'aide aux devoirs et de tutorat et de soutien scolaire à cette période.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport au droit à la citoyenneté des enfants ?
Bah, qu'on peut mettre les enfants en prison aussi. Parce que qui dit droit dit aussi des devoirs et des sanctions en cas de non-application. Et ce qui se trouve, en France, on a quand même des mineurs qui sont en prison. Pas autant que ça, heureusement, quand même. C'est aussi, ça serait un sujet à creuser, d'éviter le monde carcéral, au minimum de 16 ans. Parce que même s'ils sont mis dans des quartiers à part, là, ils sont confrontés à la violence même, quoi, de tout horizon. Et je pense pas qu'on en sorte grandi, quoi. On en sort avec une fracture, c'est obligé, quoi. Et voilà.
Eh bien, il y avait un autre droit dont vous avez parlé en cours avec vos enseignantes et enseignants et que vous avez cité lors de la séance de préparation de cette émission. C'est le droit à être aimé. Aimer, c'est aussi prendre soin de l'enfant. Donc, comment prendre soin des enfants et comment aussi reconnaître les signes de souffrance, par exemple, chez un enfant?
Il n'existe pas qu'une façon de faire ou d'être. Mais en ce qui me concerne, à sa sortie d'école, je la prends dans les bras et suivant son comportement et sa réaction, je décède un problème ou sa souffrance. Et si elle ne veut pas en parler directement à moi, tous les soirs, elle se confie avec sa mère avant d'aller au lit et parle de leur journée, de ce qui s'est passé, ce qui l'a dérangé. Parce qu'il y a un lien féminin qui est plus important qu'avec celui du père.
Un lien pas forcément mieux. Je veux dire, c'est l'amour qui compte avant tout, donc... Et donc après, pour le comportement de l'enfant, surtout, qu'on voit si ça va ou si ça va pas, par rapport à son silence, par rapport à ses actions qu'il fait, par rapport à surtout son comportement dehors et à la maison. Après, l'enfant à l'école, souvent, quand l'enfant va pas bien, ils avertissent les services sociaux.
Moi, je pense qu'en premier lieu, c'est surtout au cercle, à la famille, aux parents en premier, et au cercle familial, de prendre conscience par exemple, que l'enfant va changer du tout au tout dans un délai très court, se renfermer, devenir bougon ou agressif, alors que c'était un ange, se mettre à répondre. C'est tout un ensemble communautaire à prendre conscience que l'enfant a un problème, même s'il ne peut pas le dire. Bon, maintenant, il y a des professionnels dans les systèmes scolaires et tout, avec qui on peut parler et encadrer et faire au mieux pour que l'enfant ou l'ado puisse avoir une scolarité ou une vie moins stressante et plus épanouissante, quoi.
Puis la parentalité et la présence parentale sont essentielles pour l'épanouissement de l'enfant, autant la présence de la mère que du père, mais pas seulement. Je veux dire par là que la présence des liens parentés avec les parents éloignés comme les grands-parents, le grand-père, mais également les frères et sœurs, cousins, cousines, c'est important pour tout l'enrichissement de la part de contact familial, avant de connaître d'autres rencontres dans son enfance, dans le milieu social et amical de l'enfant. Être parent, c'est comparable à la vie, car c'est en vivant des instants que l'on apprend à agir, réagir et prévenir de par les différentes épreuves auxquelles on fait face chaque jour.
C'est vrai que vous aviez évoqué aussi cette question de la parentalité élargie, la responsabilité un peu collective de prendre soin d'un enfant.
Moi, je pense que quand on parle de parents, quand je parle de père et de la mère, on va plus se confier à une tante ou un oncle, car on a moins l'impression d'autorité parentale. On va plus être amical ou personnel avec d'autres personnes que notre père et notre mère.
Oui, l'enfant, il a moins de pression, il a plus de facilité parfois de parler, pas à un étranger, mais à une personne moins directe que les parents, dans le sens où, des fois, cette impression d'attente ou cette impression de ne pas vouloir décevoir, ce qui permettrait serait d'avoir une sorte de médiateur où l'enfant se confierait plus facilement à autrui, quoi, à ses propres parents, quoi. Mais bon, ça, c'est selon des moyens qui sont mis qui existent, mais qui ne sont pas souvent mis en place, quoi.
Puis quand on est enfant, dans la tête, on a la phrase « pourquoi ?». Donc du coup, on a beaucoup envie d'apprendre tout ce qui est découverte et on ne comprend pas pourquoi les adultes, ils ont le droit, alors pas nous. Et du coup, je pense que c'est bien de laisser le droit à la parole, à l'initiative d'un enfant, ce qui fait vraiment sa connaissance de la vie. Et on a le droit de le laisser se tromper parce que c'est comme ça aussi que moi-même, j'ai appris dans la vie.
Être parent, c'est pour la vie. pour les grands et les petits.
Alors, citation à nouveau, il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela implique d'être conscient que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais une situation de devoir, et qu'on n'a aucun droit à attendre en échange. Ça, ça vient de La cause des enfants de Françoise Dolto. C'est une psychiatre que vous avez étudiée en cours et qui vous a intéressé. Être parent pour vous, en l'occurrence, c'est être père. Quelle place est laissée au père dans la famille ?
Très peu. Il y a très peu de places qui sont mises au père. On est passé à une société assez matriarcale où la mère a plus ou moins de droits que le père. Comme on dit, de toute façon, on n'est pas, les enfants ne naissent pas avec un mode d'emploi.
Personnellement, j'ai pas eu de présence paternelle. Mon père est parti l'année où je suis né. Ayant manqué de cette présence masculine, je suis conscient de son importance dans l'épanouissement de l'enfant et dans la sensation de sécurité qu'il peut avoir.
Oui, oui, mais il y a ça aussi, parce qu'on n'est plus comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, où c'était assez établi, le padre, la mère qui fait la cuisine, le frère aîné, le cadre. Bon, tous ces stéréotypes, ces dernières années, ils ont volé en éclats avec les familles recomposées, les transgenres. Bon, avec, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est une époque à part, avec nos règles, nos codes, nos visions des choses. Et à chaque fois, faut s'adapter. Et ça, c'est pas facile ni pour les parents, ni pour les enfants. Et tant qu'on met au moins de la bonne volonté. Mais à côté, y a l'inverse, le retour de la médaille avec la citoyenneté de l'enfant. C'est que y a l'État qui rentre en compte. Et on n'est pas au cas par cas, c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de généralités, et beaucoup de généralités peuvent des fois engendrer des injustices et puis des souffrances qui n'étaient pas souhaitables, quoi.
Et puis qui sont propres à leur modèle. Voilà. Si vous avez parlé d'un modèle passé et d'un modèle actuel.
C'est plus les mêmes, quoi. Donc vous allez au tribunal, les juges, ils ont fait bac plus, c'est tous des personnes d'un certain âge. Qui sont pas automatiquement, on va dire, dans le move, quoi. Ils sont pas automatiquement à la page.
Et ce modèle dont vous avez parlé, de l'homme et le chef de famille, et la femme est limitée à un
ça,
rôle...
Ça, c'est fini, ménage. Ça.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est fini? Parce que moi, je n'ai pas l'impression, quand on en parle, que ce soit un modèle qui soit complètement dépassé.
Moi, j'espère que c'est fini, quoi.
Ok, pourquoi?
Parce que c'est stupide. Tout simplement...
Après, c'est un peu culturel, du fait que la maman reste à la maison, qui s'occupe de l'enfant, qui s'occupe de tout ce qui concerne l'enfant. Et le père travaille et revient. Ça se fait encore aujourd'hui. Moi, personnellement, ma femme travaille aussi, mais je suis plus souvent à l'extérieur qu'à la maison. Donc après, j'utilise mon temps libre avec les enfants à l'extérieur, sur le sport, particulièrement le sport, surtout mes enfants. Je suis leur éducateur sportif en même temps. Donc comme ça, ça me permet d'avoir beaucoup de temps avec eux, quoi.
Oui, inversement, comme il dit, et maintenant il y a de plus en plus de pères qui s'impliquent. Moi, ce que j'en vois, parce que je n'ai pas eu ce stéréotype familial, mais bon, moi, ce que j'en vois de mon regard externe, c'était que le père, il était là pour garde-prison, on va dire. L'enfant, il avait plus peur de la réaction du père s'il venait avec un mauvais carnet. Alors que maintenant, je vois plus des pères s'impliquer dans la vie de leur enfant, dans les jeux, le sport, pas automatiquement dans l'autorité.
Dans la sanction.
Voilà, dans la sanction, il est plus...
La tolérance.
Voilà.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enfant, il a vraiment une place dans la famille. Avant, c'était que les parents qui avaient vraiment une place importante. Et je pense que chacun a sa place aujourd'hui en famille. Et chaque avis est important et... On est à l'écoute de tous les membres de la famille, pas comme à l'époque où on n'écoutait que le père qui était genre patriarche et personne n'avait son avis à dire après lui. Maintenant, je pense que tout le monde a son point de vue et son avis et sa façon de parler. Tout le monde a le droit d'exister. D'ailleurs, j'aimerais vous lire un poème qui a été écrit par la fille de la mère de mon fils. Et il commence par « J'existe ». Le poème, ça fait « J'existe et moi aussi j'ai le droit de vivre comme tout le monde, tout comme tout le monde a le droit de manger à sa façon ». J'ai trouvé ça fort et je tenais à le citer aujourd'hui, parce que comme on disait, l'avenir c'est eux, et leur façon de voir
parfois elle est beaucoup plus adaptée à la situation. Pour trouver une solution, parfois il faut aimer et vivre les choses simples, tout simplement.
Être parent, c'est pour la vie, pour les grands et les petits.
Nous sommes toujours dans l'émission Parents mode d'emploi, diffusée sur Radio Larzac et Radio Temps Rodez, enregistrée à la maison d'arrêt de Rodez. Dans un instant, nous allons continuer cette discussion pour parler plutôt de l'exercice de la parentalité en détention. Mais avant, une illustration musicale du thème du jour. Une musique qui a été choisie par les participants, c'est Petit Frère.
Comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle les Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont pas rides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert, petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringues et de thunes, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les journalistes font des mots de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais en parler au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'il s'en procure, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Thank you.
Petit Frère de IAM sur Radio Larzac et RTR. Parents mode d'emploi, ça continue avec les personnes détenues de la maison d'arrêt de Rodez. Le débat est enregistré à la maison d'arrêt de Rodez dans le cadre d'ateliers menés par l'unité locale d'enseignement, le SPIP et nos deux radios, RTR et Radio Larzac. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la parentalité. Après une première partie sur les droits des enfants et des parents, intéressons-nous ensemble à l'exercice de la parentalité en détention.
Pour amorcer l'échange, je vous propose de commencer à parler des moyens de contact qu'on a avec son enfant et, ou sa famille quand on est en détention. On les a cités la dernière fois, on peut peut-être faire un tour d'horizon.
Certes, il y a plusieurs moyens de contact familial. Je cite, il y a le courrier, le téléphone, la visio, le parloir et l'UVF.
Une idée de vie familiale, c'est comme un petit studio où on peut recevoir ses enfants, sa femme ou toute personne qui vient au parloir. Pendant une certaine durée, la première fois c'est 6 heures et ensuite on a le droit à 24 heures ou 72 heures. C'est une fois par mois ou tous les deux mois selon les disponibilités.
C'est tous les trois mois qu'on peut, uniquement.
Avant mon incarcération, je me suis disputé moi avec la mère de mon fils. Depuis, je suis en détention, j'ai perdu tout contact avec mon fils. Le courrier, faut-il qu'elle réponde ? Ainsi, pareillement pour le téléphone et la visio. Et le parloir et l'UVF, faut-il qu'elle veuille bien accepter de venir ? Mais sans son accord, je suis dans l'incapacité ici de voir et de pouvoir voir mon enfant.
Alors moi, j'ai un texte, mais c'est surtout sur le regard de mes enfants ici, par rapport à ma détention. Malgré que je sois ici en détention, mes enfants, ils ne me jugent pas. Leurs regards sont encore plus intenses, plus expressifs. Ils me donnent encore plus de tendresse physique qui était quasi inexistant avant. Ils ressentent ce manque et ce besoin que je réclame en silence. À l'extérieur, nous sommes vraiment proches. Nous faisons beaucoup d'activités ensemble. Je suis leur père et à la fois leur éducateur sportif. Ensuite, après, je pense avoir réussi à leur transmettre l'indulgence d'être en capacité d'excuser ou de pardonner les fautes des autres, ainsi que la tolérance de ses choix et de l'amour réciproque. Seuls mes enfants peuvent me dire si je suis un bon père ou pas. Seuls mes enfants peuvent me faire devenir encore meilleur. Le fait d'être incarcéré ne veut pas dire forcément que je suis un mauvais père. Il y a plusieurs façons de se retrouver derrière les barreaux et parfois nous faisons certaines choses illégales pour améliorer le confort de sa famille. Voilà, j'ai 42 ans et je continue toujours à apprendre à travers mes enfants. Et mon séjour ici à Rodez, mon vécu et mes expériences seront transmises, j'espère, ensuite leur donner les bonnes cartes pour leur avenir.
Je pense que suivant les faits qui nous sont reprochés, on devrait éviter au maximum l'incarcération et donc de séparer l'enfant de son père ou de sa mère. Dans les deux cas, c'est possible.
Être parent, c'est pour la vie, pour les grands et les petits.
Courrier, téléphone, visio, parloir, UVF, ce sont des moyens qui sont mis à votre disposition. À quel point sont-ils accessibles ? Par exemple, si on parle du courrier, comment ce lien s'exerce et quelles sont ses limites ? Et
tout dépend le statut pénal, c'est-à-dire si l'on est en statut prévenu, c'est-à-dire mandat de dépôt, tous les courriers et toutes les demandes passent par les juges d'instruction. Et lorsqu'on est condamné, ben c'est le directeur de la maison d'arrêt qui décide et qui accorde ou pas le droit parloir au téléphone ou au courrier.
Tous les courriers sont également ouverts à chaque fois. Enfin, ils sont ouverts, on doit les laisser ouverts pour qu'ils puissent les lire et les photocopier.
Il y a la question des moyens financiers aussi pour certains moyens de contact, le téléphone par exemple.
Un téléphone dans chaque cellule, qui est exorbitant. Ça doit être à peu près 10 euros l'heure, je crois, ou 50 minutes à peine pour 10 euros de communication. Donc ça va vite, en un seul mois, ça va vite.
Et il n'y a aucune intimité, on est écouté et...
Oui, enregistré aussi.
Oui, et enregistré.
L'intimité, justement, c'est aussi ce qui peut poser problème sur le parloir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe et quelles sont les limites de ce moyen de contact ?
Moi, je ne sais pas, j'ai des enfants, je ne les vois pas, je n'ai pas coup de téléphone... L'administration est d'une lenteur phénoménale. Et voilà, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire comment c'est les parloirs, comment c'est tout ce qui est mis à disposition, puisque j'en ai accès à aucun, quoi. Et ce qui est en train de faire une coupure à un âge où mes enfants auraient besoin de moi, qui est aussi blessant pour mes enfants que pour ma détention ici, quoi. Ça fait un effet double peine. Dans tous les cas, ça a été mal pensé. que ça, ça devrait être revu. Revu et corrigé, parce que bon, ça peut... Il faut savoir, c'est qu'on est dans un milieu fermé. On est 20 heures par jour, des fois plus, avec la même personne. On n'a que ça à faire, repenser, réfléchir, ce qui nous manque et tout et tout. Et les actes, les choses, et tout prend une dimension, c'est disproportionné. Un petit peu de travers que dehors, où vous ne prêtez pas attention. Ici, vous allez en parler pendant un mois, deux mois, trois mois. Le sujet des enfants est un sujet extrêmement sensible.
Moi, au niveau des parloirs, j'ai la chance, toutes les semaines, d'avoir ma femme et mes enfants qui viennent me voir tous les samedis. Et c'est bien et pas bien. Parce que par moment, on sait qu'on est proche de la sortie, on est près d'eux. Et ça dure, c'est très court, ça dure que 45 minutes. Donc on parle vite fait, et 45 minutes, c'est vite passé. Et après, le fait de revenir en cellule tout seul, et de se dire qu'on est encore en prison et qu'ils repartent de leur côté, des fois, c'est mieux de ne pas en avoir du tout. Mais je dirais que quand même un peu. Mais à chaque fois, ça fait quelque chose, à chaque fois qu'on doit retourner tout seul. Ensuite, le parloir, c'est une petite pièce, toute simple, avec une table, quatre chaises. C'est un peu glauque, quoi. C'est glauque dans le sens où il n'y a pas d'âme, quoi.
Avec très peu d'intimité aussi, que ce soit avec la famille, les enfants ou n'importe qui. Les surveillants passent sans cesse voir ce que l'on fait. Et voilà, même ce petit moment-là, il est surveillé.
Vous avez parlé de la pièce pour les parloirs. Il y a aussi une pièce aménagée pour les enfants ou pas ?
Non, non. Il y a, ici à Rodez, je crois qu'il y a 7 boxes, dont un peu plus grand. Non, après, à l'accueil, je crois qu'à l'accueil, avant qu'ils ne viennent nous voir au parloir, il y a une réception pour les familles. Où il puisse y avoir des choses pour les enfants, ou pour les parents, enfin pour les femmes. Les enfants qui puissent se distraire un peu en attendant, je pense, mais on n'y a pas accès. Donc on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, on le sait seulement.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ces moyens de contact, ces contraintes? Vous les avez déjà un peu citées. Vous voulez ajouter autre chose?
Oui, moi j'ai l'impression que j'ai perdu tous mes droits ici, que je ne suis plus le père, mais qu'elle est seulement elle, la mère. Vu que je relance par courrier, par téléphone, je pourrais bien faire des demandes de visio, même si elle est loin, à distance. On nous permet d'avoir des visios pour les familles qui sont loin. Mais j'envisage même pas les parloirs et les UVF, car elle me répond même pas. Et je pense que j'ai l'impression qu'on m'a suspendu mes droits de visite avec mon enfant, parce que sans son accord, il y a aucune organisation qui me permet de m'amener mon enfant à moi, vu que je suis enfermé ici. J'ai l'impression de perdre tous mes droits parentaux.
Ça a un peu un effet boule de neige vis-à-vis de la justice, puisque si on fait des demandes, des démarches par rapport au fait de voir notre enfant ici, puisqu'on a une problématique qui peut être soit liée avec la conjointe, soit administrativement, il n'empêche qu'après, avec le juge des enfants, on est catalogué. Et ça peut nous entraîner plus de problèmes que de solutions. Après, à la sortie, on peut avoir des problèmes pour voir notre enfant et tout. On peut même nous supprimer nos droits parce qu'on a été en prison. On est jugé par rapport à ça. Et donc, ça double tranchant.
Et donc, on pourrait, pour conclure, on voulait vous demander qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour améliorer cette situation ? Comment faire en sorte, par exemple, que l'enfant et le père restent en contact sans forcément faire venir l'enfant à la maison d'arrêt? Ou quelles autres solutions vous imaginez?
Il y a le visio déjà. Le visio, c'est déjà pas mal comme truc. Des contacts téléphoniques moins onéreux.
Je suis d'accord pour tout ce qui concerne le téléphone. Je trouve que déjà, à partir du moment qu'on est incarcéré, on laisse un peu sa famille dans le besoin. Financièrement, et de demander encore de l'argent à sa famille, alors qu'on sait qu'on peut les laisser pour nos enfants, juste pour pouvoir leur communiquer par téléphone, quoi. Je trouve que c'est un peu aberrant, le prix exorbitant, je trouve. Seulement 50 minutes pour 10 euros, ça va très vite au téléphone. On se dit tout, trois choses, 8, 20, 25 minutes qui sont passées en une seule fois. C'est vrai que pour la communication, ça serait bien d'avoir...
T'as un enfant qui a toujours quelque chose à te dire en plus, et oui. Tout. On n'a pas cette interaction, cette joie d'être naturel. Déjà, inconsciemment, le fait de savoir qu'on peut nous écouter et tout, ça change aussi notre comportement. On n'est pas le papa normal et tout. Moi, je sais qu'on a besoin, autant les détenus que l'enfant, on a besoin l'un de l'autre pour avancer, quoi, aussi, pour faire en sorte qu'il n'y a pas une fracture, que ce soit après une continuité, que... Voilà, comme si papa est parti acheter un paquet de clopes. Mais il est revenu cette fois.
Est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres solutions ?
Ne pas aller en prison.
Parents mode d'emploi, le débat touche à sa fin. C'est un travail des personnes détenues qui ont volontairement participé aux cours et aux ateliers, un travail des professeurs détachés par l'éducation nationale à l'unité locale d'enseignement, un travail des intervenants et intervenantes du service pénitentiaire d'insertion et de probation et des animatrices de Radio Larzac et RTR. Merci à toutes et tous d'avoir participé, merci à vous de votre écoute.
Vous retrouvez cette émission sur les fréquences de Radio Larzac, donc c'est le 87.8 FM à Millau, 98.6 à La Couvertoirade et 92.5 à Nantes. Et bien sûr sur la fréquence aussi de Radio Temps Rodez, le 107 FM à Rodez. Elle est aussi disponible sur radiotemps.com et sur radiolarzac.org ainsi que sur les plateformes de podcast, donc SoundCloud, Deezer, TuneIn et Spotify. Et merci aussi aux techniciens.
Parents, mode d'emploi.